Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour nos conférences mensuelles. Donc bienvenue à tous ceux qui remplissent notre amphithéâtre, ça nous fait très plaisir d'accueillir autant de monde. Et bienvenue à ceux qui nous suivent en direct ou en différé dans quelques heures, quelques jours, quelques années sur notre chaîne YouTube. Donc pour cette conférence aujourd'hui à l'Institut d'astrophysique de Paris, aujourd'hui c'était une grande journée en physique puisque ce matin on a appris les lauréats du prix Nobel de physique. Alors évidemment, le prix Nobel, c'est un prix tellement prestigieux qu'on en parle énormément. C'est le jour dans l'année, probablement, où on parle le plus de physique. Et donc, ceux qui l'ont obtenu ce matin, c'est Pierre Agostini, Ferenc Kraus et Anne Luyer, donc trois scientifiques, deux chercheurs et une chercheuse, pour leurs travaux sur les lasers ultra-rapides qui permettent d'étudier les mouvements, la dynamique des électrons dans les atomes, dans les molécules. Et puis, c'est intéressant de souligner que Pierre Agostini, c'est un Français, il travaille aux États-Unis, mais il a fait sa thèse à l'université d'Aix-Marseille. Et puis Anne Luyer, c'est une franco-suédoise qui a fait sa thèse à l'université Pierre et Marie Curie, université aussi beau nom. Et donc, puisqu'on parle de prix Nobel, figurez-vous qu'au début de l'année prochaine, dans ce cycle de conférences, nous aurons le plaisir d'accueillir à la suite deux prix Nobel passés de physique. Donc je vous annonce que le 5 mars prochain, nous recevrons Gérard Mouroux, ici même prix Nobel de physique 2018, qui nous présentera une conférence. Et puis deux mois après, le 7 mai 2024, nous recevrons Michel Mayor, qui nous présentera le prix Nobel de physique lui en 2019, qui nous présentera également une conférence dans ce cadre. Et pour la suite de notre programmation, le 7 novembre prochain, donc dans un mois, les réservations à partir de demain, nous recevrons Philippe Thébault de l'Observatoire de Paris, donc le 7 novembre prochain, qui nous présentera une conférence intitulée « La formation planétaire ». Et le mois suivant, le 5 décembre, nous recevrons pour une conférence deux personnes, deux chercheurs, Pierre Léna et Jean-Claude Vial, qui nous présenteront une conférence intitulée « Histoire d'éclipses et de couronnes solaires autour de Serge Kouchmi ». Donc on parlera de la couronne solaire. Et puis on rendra également hommage à notre collègue Serge Kouchmi, qui nous a quittés il y a quelques mois. Serge Kouchmi, qui a présenté la première conférence de ce cycle dans cet amphi, ici même, il y a près de 30 ans. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Cédric Defayet. Donc Cédric, en fait, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on s'est croisés à une école d'été, alors qu'on préparait chacun notre thèse il y a quelques années, quelques décennies, on va dire. Puis on est plusieurs à garder contact par la suite. C'est agréable de continuer à faire de la recherche en se côtoyant. Donc Cédric, tu es directeur de recherche au CNRS. Tu es physicien théoricien, tu travailles en cosmologie, en gravitation, en relativité générale, en théorie des champs, en physique de hautes énergies. Tu as travaillé à de nombreux endroits. Alors, j'ai noté l'Université de New York, Laboratoire Astro, Particules et Cosmologie, ici en Ile-de-France, à l'Institut des Hautes Études Scientifiques. Tu as été longtemps ici parmi nous à l'Institut d'Astrophysique de Paris, dont tu es toujours chercheur associé. Et actuellement, tu es donc au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Tu enseignes également à l'ENS. Tu as enseigné à l'École polytechnique. Tes travaux t'ont valu de nombreux prix, notamment la médaille de bronze du CNRS, le prix Paul Langevin de la Société française de physique. Et ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Une petite histoire de la masse du graviton ». Je t'en prie.
Merci Guillaume. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui du graviton et de sa masse. Alors, si tout marche bien, voilà. Donc je vais commencer par une petite invitation au voyage pour vous raconter pourquoi on s'intéresse au graviton, pourquoi on peut s'intéresser au graviton à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, dans ma conférence, je définirai un peu plus précisément ce qu'on entend par graviton, mais évidemment, quand on entend graviton, on entend gravitation. Donc il y a évidemment un lien entre le graviton et la gravitation. Et je vais commencer par parler un peu de gravitation. La gravitation, on sait que c'est l'interaction ou la force qui régit le mouvement des corps à grande échelle dans l'univers. Donc là, j'ai mis en fond une photo prise par le télescope spatial Hubble. Donc en fait, à peu près tout ce qu'on voit sur cette photo, ce sont des galaxies ou des amas de galaxies, et tout ça bouge sous l'effet principalement de la force gravitationnelle. Et aujourd'hui, depuis maintenant plus de 100 ans, on a une très belle théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale, qui a été finalisée par Einstein en 1915. Vous voyez là, ça c'est le papier, l'article qui présente les équations des champs de la gravitation. Et cette théorie, on peut dire qu'elle complète la théorie de gravitation qu'on apprend quand on est petit de Newton, dont je parlerai aussi plus précisément un peu plus tard. Alors pour l'instant, cette théorie d'Einstein, Elle passe brillamment tous les tests qu'on peut lui faire subir. Donc ici, à l'Institut d'Astrophysique de Paris, on a des experts des tests qu'on peut faire subir à la relativité générale, comme Gilles Esposito-Farès, là, qui est dans la salle. Le fait est que la théorie d'Einstein passe tous ces tests. Et un des derniers tests en date, peut-être, c'est ce qui ressort des observations des ondes gravitationnelles qui ont valu le prix Nobel à ces trois personnes en 2017. Donc, ondes gravitationnelles qui ont été détectées directement par les grands interféromètres que vous connaissez sans doute, LIGO, Virgo, KAGRA maintenant, et qui sont émises lors de la fusion d'objets compacts, en particulier des trous noirs. Voilà. Alors, quid du graviton maintenant ? Donc, le graviton, c'est un quantum hypothétique, parce qu'on n'a jamais détecté directement de graviton, associé au champ gravitationnel dans la théorie de la relativité générale. Donc on peut dire que c'est l'analogue du photon dans l'électromagnétisme pour la gravitation. Et d'ailleurs, il n'est pas clair qu'on puisse vraiment détecter des gravitons individuels, mais en tout cas, on peut dire que c'est une sorte de... Quand on parle de graviton, et quand je vais parler de graviton dans cette conférence, je ne vais pas parler finalement d'une particule ou d'un quantum qui aurait été détecté et qu'on peut manipuler aussi facilement qu'on peut le faire avec un photon, mais ça serait une sorte de résumé ou de court-circuit vers la gravitation. Et vous verrez plus précisément ce que je veux dire par là. Alors, dans cette théorie de la relativité générale, le graviton a une masse exactement nulle, strictement nulle, et on expliquera pourquoi c'est le cas, de même que le photon de l'électromagnétisme a une masse strictement nulle. Et il y a une raison commune au fait que à la fois le graviton et le photon ont une masse nulle, que je vais expliquer. Donc si on pense ou on évoque la possibilité que le graviton est une masse non nulle, comme le titre de ma conférence le suggère, ça veut dire qu'on s'écarte de la relativité générale, donc on considère une théorie de la gravitation qui n'est pas la relativité générale, qui diffère de la relativité générale. Donc on modifie la relativité générale. Donc on peut se demander pourquoi on a l'idée de faire ce genre de modification. Et ici, une des motivations vient de la cosmologie, donc de l'étude de l'univers à très grande échelle. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler du fait qu'on comprend dans le cadre du modèle standard, donc consensuel, sur lequel à peu près tout le monde s'accorde, de la cosmologie qui est fondée sur la relativité générale. Donc si on se place dans ce cadre-là, on peut décomposer le contenu matériel de l'univers en différents morceaux et s'apercevoir que la majorité de ces morceaux, à peu près 95% de la masse de l'univers aujourd'hui, est sous forme dite noire ou sombre. Et cette partie noire ou sombre de l'univers, elle se décompose en à peu près 75%, les trois quarts d'énergie noire ou sombre, et le reste en matière noire. Donc ce sont des contenus sombres, c'est-à-dire qu'ils ont été détectés uniquement par leur effet gravitationnel. Alors la matière noire explique en particulier le mouvement interne des étoiles dans les galaxies, et on l'a pas détecté autrement, comme je l'ai dit déjà, que par ces effets gravitationnels. Donc il y a des expériences de physique de toutes sortes qui cherchent à la détecter plus directement. Donc par exemple ici, une expérience qui est logée dans un tunnel très profondément enfoui pour écranter des tas de bruits qui peuvent être gênants pour faire ce genre de détection, qui cherchent le passage de particules de matière noire. Et pour l'instant, on n'a rien détecté. Donc cette matière noire, elle reste uniquement visible par ses effets gravitationnels. Alors de l'autre côté, on a l'énergie noire ou l'énergie sombre, qui explique en particulier une découverte qui a été faite maintenant il y a environ 25 ans et qui a valu le prix Nobel de physique à ces trois personnes en 2011. Cette découverte, c'est que l'expansion cosmique accélère, alors qu'on s'attendait avant cette découverte qu'elle décélère sous l'effet essentiellement de l'attraction gravitationnelle de la matière ordinaire. Donc pour expliquer cette accélération de l'expansion cosmique, on doit introduire ce qu'on appelle l'énergie noire ou de l'énergie sombre. Alors on peut remarquer que dans l'histoire de l'univers, quand on remonte le temps, l'expansion n'a pas toujours accéléré. autrefois, quand l'univers était peut-être deux fois plus jeune environ qu'aujourd'hui, l'univers, l'expansion cosmique n'accélérait pas, elle décélérait, et puis elle s'est mise à accélérer à un certain âge de l'univers. Et donc ça veut dire que dans la nature, il y a un temps caractéristique qu'on peut appeler TC, où on peut fabriquer en multipliant par la vitesse de la lumière une distance, DC, caractéristique qui indique que l'âge de l'univers quand l'univers est passé d'un moment où l'expansion décélérait à un moment où l'expansion accélérait. Donc ça, cette simple observation est très importante parce que ça dit que dans l'univers, il y a cette distance caractéristique très grande en fait, qui caractérise la transition entre l'expansion accélérée et l'expansion décélérée, si on remonte le temps. Alors, pour ce qui est de l'énergie noire, la forme la plus simple d'énergie noire, donc parfois, d'ailleurs peut-être on a tort de parler d'énergie noire, mais parce que la forme la plus simple de cette énergie noire, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui a été introduite par Einstein en 1917, dans cet article-là. Et donc je ne vais pas parler en détail d'équations, enfin je vais parler un petit peu d'équations, mais j'espère que ce que je vais dire sera malgré tout transparent à ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas les détails derrière ces équations. Donc là, juste, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on ne connaît pas du tout ce que ça veut dire que ces équations-là, ce qui sont les équations d'Einstein, les équations du champ gravitationnel dans la théorie de la relativité générale, on voit qu'Einstein a modifié ces équations initiales et il a rajouté un terme. Et ce terme, c'est le terme de la constante cosmologique. Là, j'utilise des notations pas très standards pour ce terme, mais c'est les notations qu'utilise Einstein dans cet article pour cette constante cosmologique. Et l'effet de ce terme, notamment pour la cosmologie, c'est de pouvoir conduire à une accélération de l'expansion de l'univers. Alors, on peut remarquer aussi que cette constante cosmologique, elle-même, elle permet d'expliquer de comprendre l'existence de cette échelle caractéristique de distance dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que si on analyse les choses, la dimension de cette constante, on s'aperçoit qu'en utilisant les bonnes unités, on peut fabriquer avec elle une distance caractéristique DC. Et ça correspond, grosso modo, à cette distance qui a été observée dans les observations qui ont conduit au prix Nobel de 2011 dont j'ai parlé tout à l'heure, mesurant le passage de la transition entre l'état où l'univers décélère vers l'état où l'univers accélère. C'est pour ça que ça marche, en quelque sorte, aussi, cette constante cosmologique, pour expliquer l'accélération cosmique. Alors, donc, si on réfléchit, on prend un peu de recul, en cosmologie, on peut dire que, finalement, on a besoin de composants noirs dans l'univers, si on s'en tient à la théorie de la relativité générale, et cette situation peut nous évoquer une situation qui s'est présentée en astronomie autrefois, il y a un siècle, autour de ce qui se passait dans le système solaire à l'époque. Donc, à l'époque, on avait en particulier les calculs de ce monsieur Le Verrier. Donc, c'est une photo de Le Verrier qui était, comme vous le savez sans doute, le directeur de l'observatoire, quelqu'un aussi d'assez imbuvable, mais aussi génial. Il a donc en particulier calculé de façon précise, aussi précise qu'il pouvait à l'époque, le mouvement des corps du système solaire, et en particulier celui de la planète Neptune, Uranus, Uranus qui était la planète la plus lointaine connue à l'époque, qui a été découverte par hasard en 1781, je crois, par Herschel. Donc on connaissait la planète Uranus, et Le Verrier a calculé le mouvement de cette planète et s'est rendu compte que ça ne collait pas avec les influences des autres corps du système solaire. Et donc, pour expliquer cette anomalie du mouvement de Uranus, il a supposé qu'il existait une nouvelle planète. Et donc, pendant cette phase où c'était simplement une supposition, et où l'effet de cette planète était juste vu dans les calculs de Le Verrier comme un effet d'une influence gravitationnelle de cette planète sur Uranus, on peut dire que Neptune était une planète noire. On ne l'avait pas détectée et on la voyait uniquement par son effet gravitationnel. Un peu comme aujourd'hui, on a l'énergie noire et la matière noire qu'on voit uniquement par leur effet gravitationnel. Donc vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est qu'on a découvert Neptune grâce au calcul de Le Verrier. Et donc, une fois qu'on a eu découvert Neptune, elle est devenue non plus noire, mais visible, en tout cas. Voilà. Donc, c'est la situation qu'on aimerait peut-être atteindre en en cosmologie concernant la matière noire. Et l'énergie noire, c'est un peu différent, mais en tout cas, on aimerait bien découvrir directement ces particules de matière noire qui sont vues par leur effet gravitationnel. Donc, la suite de l'histoire, c'est Mercure. Donc, Le Verrier a aussi calculé le mouvement de Mercure et s'est aperçu à nouveau que le mouvement de Mercure ne marchait pas n'était pas compatible avec l'existence des autres corps du système solaire. Il y avait une anomalie résiduelle dans le périhélie de Mercure, donc le point d'approche le plus proche du Soleil, tourne tout très lentement, environ une fraction de degré, un dixième de degré par siècle. Et sur ce mouvement de précession de périhélie, il y a environ un dixième de l'effet qui n'est pas dû aux autres corps du système solaire. Donc, Le Verrier a essayé d'expliquer, à faire le même coup qu'avec Uranus, et a essayé d'expliquer ce mouvement par l'existence d'un corps ou de plusieurs corps noirs à l'époque. Et ça n'a jamais marché. Donc, une des hypothèses, c'était qu'il existait une planète auquel on a même donné un nom, Vulcain. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis Monsieur Spock. Je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes, parce qu'apparemment, c'est plutôt les gens d'un certain âge comme moi qui connaissent M. Spock. Mais en tout cas, M. Spock, dans la série Star Trek, vient d'une planète Vulcain. Et on n'a jamais trouvé cette planète Vulcain. Mais par contre, est venue ensuite Einstein et la théorie d'Einstein, donc qui est une théorie par rapport à Newton qui modifie la théorie de gravité, permet d'expliquer le mouvement anormal de Mercure. Donc là, cette diapositive résume en fait l'alternative qu'on a, en cosmologie également, soit on a des composants noirs dans l'univers, soit on a peut-être une modification de l'interaction gravitationnelle. Alors, donc, si on essaie de regarder cette deuxième possibilité, qui est sans doute celle qui est la moins consensuelle, si vous demandez à un astronome lambda, sans doute la majorité des astronomes vous diront qu'ils croient qu'il y a de la matière noire dans l'univers ou de l'énergie noire, mais on peut néanmoins s'interroger sur la deuxième possibilité essayer de changer la gravitation. Donc pour remplacer entre guillemets la matière noire, on a une belle construction due à ce physicien, Mordechai Milgrom, qui est un modèle qui a des tas d'intérêts, mais qui n'est pas complètement satisfaisant non plus. Et puis pour l'énergie noire, on a trouvé dans les années 2000 un modèle qui est assez exotique, vous allez voir, mais qui en tout cas a donné une sorte de coup d'accélération à cette idée que la gravitation pouvait être modifiée pour expliquer l'accélération cosmique. C'est ce modèle dit DGP, pour Dvali, Gabadadze et Porati, qui sont des physiciens qui travaillaient à l'époque tous aux États-Unis. Alors dans ce modèle DGP, en fait, l'univers est ce qu'on appelle une branne. Donc, il manque un guillemet. Ah non, elle est là, mais pas la bonne couleur sur ma diapositive. Mais en tout cas, une branne, on peut voir ça comme une sorte de surface qui flotte. Donc, une surface qui serait tout notre univers usuel à trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Mais cette surface, elle flotterait dans un espace plus grand qui pourrait avoir cinq dimensions. Donc, ce type de construction d'univers Brahm, en fait, a eu son heure de gloire et est toujours utilisé en relation avec la théorie des supercordes, qui est une théorie très, très étudiée en physique des hautes énergies pour essayer d'unifier la gravitation et la mécanique quantique. C'est un type de construction qui sont toujours étudiées, et le modèle DGP a cette caractéristique-là. Alors, dans ce modèle-là, en fait, on peut voir que la gravitation est modifié à très très grande distance. Donc c'est la particularité de ce modèle. Je ne peux pas vous expliquer vraiment en détail pourquoi, mais il se trouve dans ce modèle DGP, qui est un modèle Brahm particulier, la gravité est modifiée à très grande distance, pour des distances grand D, qui sont plus grandes qu'une certaine distance caractéristique qui apparaît dans ce modèle DGP. Et cette modification à grande distance, elle peut induire une accélération cosmique comme celle qu'on observe, sans avoir besoin d'une constante cosmologique. Et concrètement, cette idée a lancé en fait, l'idée de lier l'accélération cosmique et des modifications de la gravitation et donné beaucoup de fruits théoriques. Alors, aujourd'hui, je vais revenir au sujet de la conférence. Et quel est le lien avec le modèle DGP? C'est qu'il se trouve que dans le modèle DGP, la gravitation à grande distance, la gravitation à grande distance, a quelques similitudes avec ce qui se passerait si le graviton avait une masse. Et donc ce modèle DGP a aussi lancé un renouveau d'intérêt pour ce qu'on peut appeler la gravitation massive, c'est-à-dire la gravitation où le graviton a une masse. Et donc c'est une théorie de gravité qui reste à définir, mais qui est différente de la relativité générale, puisque, comme je l'ai dit au début, dans la relativité générale, le graviton a une masse exactement nulle. Voilà. Donc avant de vous parler de la gravitation massive, je vais vous parler un peu de la gravitation de masse nulle, entre guillemets, c'est-à-dire les théories standard, en commençant par la plus simple, qui est celle de Newton, puis ensuite celle d'Einstein. Donc déjà, on peut un petit peu étudier ce qui se passe pour la portée de la force de gravitation dans la théorie de Newton. Alors vous savez que donc, dans la théorie de Newton, elle nous dit, la théorie de Newton, que si vous prenez deux masses M1 et M2, séparées par une distance grand D, il y a une force entre ces deux masses attractives. Et ce qui est important, c'est que cette force, elle varie comme l'inverse de la distance au carré. Donc ici, vous avez Newton. Là, vous avez la maison natale de Newton qu'on peut visiter aujourd'hui en Angleterre. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un truc assez amusant à faire. Et ici, il y a évidemment le fameux pommier, où un de ses descendants, en tout cas, c'est quand on visite cette maison, on vous explique cela, sous lequel Newton aurait eu la révélation associée aux lois de la gravitation. Et en fait, on trouve en Angleterre, en particulier dans les universités, on trouve des tas de bouturages de ce pommier. Donc là, c'est un de ces bouturages. Mais en tout cas, pour nous, le pommier importe assez peu, mais ce qui importe, par contre, c'est que cette dépendance en 1 sur la distance au carré. Alors, on peut aussi penser qu'il y a un autre endroit en physique où on trouve une telle dépendance, c'est la force électrostatique entre deux charges. Donc elle peut être attractive ou répulsive, cette force, elle est aussi dirigée suivant la direction qui joint les deux charges, mais elle varie aussi comme l'inverse de la distance au carré. Et on y reviendra. Donc concrètement, si on ne connaît pas les maths, qu'est-ce que ça veut dire que ça varie comme l'inverse de la distance au carré? Ça veut dire que si vous prenez deux masses séparées par une distance d et puis une distance double, la force est divisée par 4. Et cette propriété, en fait, on peut le comprendre de façon peut-être compliquée en utilisant ce qu'on appelle le théorème de Gauss, mais on peut aussi le comprendre avec une bombe de peinture. Alors j'ai failli en apporter une, mais je me suis dit que j'allais mettre la peinture partout. Donc je vais essayer d'expliquer ça sur une diapositive. Donc si vous êtes un graffeur et que vous avez une bombe de peinture et que vous aspergez de la peinture sur un mur, c'est ce qui est représenté ici, vous voyez que la quantité de peinture qui est déposée sur une petite surface carrée là, si vous doublez la distance de cette surface, eh bien la quantité de peinture déposée sur la même surface carrée sera divisée par 4. D'accord ? Parce que la surface ici, elle varie comme la distance au carré. Une autre façon de dire, c'est que toute la peinture qui rentre sur la surface rouge doit se retrouver sur la surface jaune. Et comme il y a 4 surfaces jaunes ici, quand on a doublé la distance, eh bien sur une même petite surface que la surface rouge, la quantité de peinture qui va être déposée, elle est divisée par 4. D'accord ? Donc c'est très simple. C'est donc de la même façon que la gravitation, hein, la quantité de peinture déposée sur une même surface, elle décroît comme la distance au carré. Et on peut remarquer que cette loi de décroissance, en fait, elle ne fait pas apparaître de distance caractéristique. C'est-à-dire que si vous prenez une certaine distance grand D, et ici vous prenez le double cette distance, 2D, le rapport entre la peinture déposée ici et là, elle va être de 4, 1 sur 4, et ça ne dépend pas du choix de la distance initiale. Si vous prenez une distance plus petite, le rapport va rester 4 ici, ou 1 sur 4, d'accord ? Donc pour cette raison, on peut dire qu'il y a une invariance d'échelle dans cette loi de puissance. Et on peut voir aussi que cette loi de décroissance en 1 sur d carré, elle est liée à la conservation de la matière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que toute la peinture qui rentre ici sur la surface rouge doit se retrouver sur la surface jaune. Et comme la surface jaune elle est 4 fois plus grande, il y en a un quart sur une petite surface égale à la surface initiale. Alors on peut l'écrire avec une équation si on veut. Donc si on appelle QPE la quantité de peinture qui rentre en rouge, ça doit être égal à la quantité de peinture qui sort de la surface jaune. D'accord ? Alors c'est pareil pour la gravitation. Et c'est ce que nous dit le théorème dit de Gauss. dans la gravitation, comme il y a cette loi en 1 sur d carré, la gravitation de Newton, il n'y a pas non plus de distance caractéristique qui mesure la décroissance avec la distance. Et pardon, pour cette raison, on dit qu'il y a une portée infinie à la force gravitationnelle ou une invariance d'échelle. Une portée infinie, ça veut dire que, évidemment, la force de gravitation, elle s'étend, elle est non nulle jusqu'à l'infini, mais elle varie comme une loi de puissance sans distance caractéristique. Alors, est-ce qu'on peut modifier ces propriétés? Eh bien, si on pense à la peinture, oui, on peut. On imagine, par exemple, qu'on met dans l'espace des monstres mangeurs de peinture. Donc, c'est ces petits Pac-Man, là. Donc on imagine que chaque petit Pac-Man mange un peu de peinture quand il reçoit de la peinture sur le visage. Ce qu'on voit, c'est que comme entre la surface rouge et la surface ici orange, il y a ces monstres, il va y avoir moins de peinture déposée qu'auparavant. D'accord ? Donc ça veut dire que la loi de décroissance de la peinture en 1 sur d carré ne marche plus. Donc il y a la peinture se dépose de façon moins importante qu'auparavant à cause de la présence de ces monstres. Et en plus, on voit que c'est la présence de ces monstres introduit une distance caractéristique d'atténuation. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait avant, le rapport entre la peinture déposée sur la surface jaune et celle déposée sur la surface rouge, elle est plus indépendante du choix de D, de la distance grand D à la surface rouge, parce que par exemple ici, dans cette situation où la distance est plus faible que là, vous n'avez pas de Pac-Man entre les deux surfaces, donc les Pac-Man ne mangent rien, alors qu'ici, il y en a. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'ici, il y a moins d'un quart de peinture qui est déposée par rapport à la surface rouge, alors que là, il y a toujours un quart de peinture. D'accord ? Donc, la présence de ces petits monstres mangeurs de peinture nous dit que la loi en 1 sur d carré ne tient plus. Et en fait, on peut, si on fait un petit modèle assez simple, on peut voir qu'il y a une décroissance dite exponentielle de cette quantité de peinture déposée. Alors, on peut même, cette décroissance exponentielle, on peut aussi la voir autrement, on peut penser que s'il y a beaucoup, beaucoup de monstres mangeurs de peinture, là, il reste presque plus de peinture qui atteint la surface auparavant orange, et donc la quantité de peinture déposée décroît très, très rapidement avec la distance, et c'est cette décroissance exponentielle que j'ai montrée juste avant. Voilà, alors si on met ça un peu en équation, sans que ça soit très important, mais je dis juste comme ça, donc on peut écrire que la quantité de peinture qui est déposée sur la surface orange, c'est la quantité de peinture qui entre dans la surface rouge, moins la quantité qui est mangée par les monstres. Et cette quantité qui est mangée par les monstres, elle varie proportionnellement au volume voyez, qui est entre la surface rouge et la surface orange. Donc c'est ce terme-là. Et c'est ça qui détermine la distance caractéristique. Donc ce qu'il faut retenir pour la suite, c'est cette structure d'équation, un petit peu, qu'on va voir apparaître par la suite. Alors, donc la question qui est au centre de cette conférence, finalement, c'est est-ce qu'on peut faire pareil qu'on a fait pour la peinture, pour la gravitation? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer la loi de gravitation pour lui donner une portée dite maintenant finie, c'est-à-dire avoir une coupure exponentielle, comme ça, une coupure très rapide, beaucoup plus rapide qu'avec une loi de puissance? Alors, ces lois de décroissance, aussi bien la première que la deuxième, si on pense en termes de physique des particules ou de quanta, on peut les associer, l'une et l'autre, à des propriétés de ces quanta. Donc là, une force qui est transportée par une particule de masse nulle, comme la force gravitationnelle dans la théorie d'Einstein, de Newton, il n'y a pas de particules, mais où la force électromagnétique dans la théorie de Maxwell, on en parlera. Donc une force qui est transportée comme ça par une particule de masse nulle, photon, graviton, elle a typiquement une portée infinie et elle varie en 1 sur d au carré. Alors que si on met une masse à ces particules, au contraire, on trouve une coupure exponentielle qu'on appelle en général Yukawa et où la distance caractéristique est proportionnelle, enfin inversement proportionnelle à la masse de la particule. Donc plus la particule est massive, et plus la portée de la force est courte. Et donc, la question posée, c'est est-ce qu'on peut rendre le graviton massif pour donner à la gravité une portée finie? Alors, c'est une idée, on ne s'est pas dit très souvent, mais qui est liée historiquement à la constante cosmologique. dans l'article dont j'ai parlé tout à l'heure, donc d'Einstein en 1917, si on regarde cet article, alors, même si on ne sait pas parler allemand, en fait, on peut comprendre ce qui se passe en lisant un petit peu les équations, là, enfin les titres. Donc on voit déjà que Einstein, vous voyez, il commence par parler ici, dans l'article, de die Newton'sche Theorie, donc la théorie de Newton. Et dans la théorie de Newton, il donne l'équation caractéristique que vérifie ce qu'on appelle le potentiel gravitationnel. Donc je vais expliquer plus tard ce que c'est que le potentiel gravitationnel, mais il suffit pour l'instant d'admettre, si on ne connaît pas cette équation, qui s'appelle l'équation de Poisson. Donc là, on voit Poisson'sche Differentialgleichung, ça doit vouloir dire l'équation différentielle de Poisson, Poisson qui était un Français. Et bien, donc cette équation de Poisson, c'est celle qui donne le potentiel gravitationnel dans la théorie de Newton. Donc je l'ai remise là. Donc c'est une équation assez simple. Il y a un opérateur différentiel qu'on appelle le Laplacien, peu importe, la constante de Newton, la densité de masse de la matière. Et si on se place dans le vide, on obtient cette équation simple. Et encore une fois, si on ne connaît pas les maths, ce n'est pas grave, il suffit d'admettre que cette équation, elle nous dit, on peut la voir comme une équation de conservation. De même que tout à l'heure pour la peinture, il y avait une équation de conservation qui nous disait que la peinture qui rentre dans la surface rouge, elle est en même quantité que la peinture qui arrive sur la surface jaune. Donc l'équation de Poisson, elle nous dit la même chose, en gros, pour le potentiel gravitationnel. Et alors, un peu plus loin dans l'article, Einstein continue et il dit qu'il a envie de modifier l'équation de Poisson sous cette forme-là. Donc, si on grossit un petit peu l'article d'Einstein, enfin l'équation-là, et qu'on se met dans le vide aussi, voilà ce qu'il écrit après. Et donc, cette équation-là, on peut appeler ça l'équation de Poisson modifiée. En fait, je crois qu'elle s'appelle plutôt équation de Helmholtz, peu importe. Nous, on va l'appeler équation de Poisson modifiée. Vous voyez qu'elle diffère l'équation de Poisson par ce terme-là, qui n'existait pas dans l'équation de Poisson. Donc, c'est un terme qui est proportionnel au potentiel gravitationnel. Et ce simple terme donne une portée finie à la force de gravitation. Donc, il fabrique le potentiel de Yukawa, ou la force de Yukawa dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, en fait, ce terme-là, c'est l'analogue du terme qui vient des petits monstres qui absorbent la peinture. C'est l'analogue de ce terme-là pour le champ de gravitation. Donc, on va y revenir. Et ce que Einstein continue ensuite, et en fait, il explique qu'il fait un lien, un parallèle entre le passage de l'équation de Poisson toute seule à l'équation de Poisson modifiée. Et il dit qu'il y a une analogie entre faire ce passage et rajouter une constante cosmologique dans les équations d'Einstein. Alors, c'est... voilà. Et donc, il y a ce parallèle historique entre l'argument d'Einstein pour introduire la constante cosmologique et le passage de l'équation de Poisson à l'équation de Poisson modifiée. Alors, si on veut un peu embêter Einstein, donc il y a par exemple cet article de gens qui sont d'éminents relativistes qui pointent que souvent on raconte l'histoire que Einstein a dit que la constante cosmologique c'était sa plus grande bêtise ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans cet article de ces deux relativistes, ils expliquent, quand on lit l'article d'Einstein, c'est peut-être un petit peu avec une pointe de mauvaise foi, mais que la bêtise d'Einstein a consisté non pas à introduire la constante cosmologique, mais à faire ce parallèle entre le passage de l'équation de Poisson à l'équation de Poisson modifiée, parce que ce n'est pas ce que fait la constante cosmologique. En particulier, la constante cosmologique ne donne pas de masse au graviton, et elle ne transforme pas le potentiel de Yukawa en un potentiel, le potentiel en 1 sur d carré en un potentiel de Yukawa. Mais en tout cas, ce qui est un fait, c'est qu'Einstein fait ce parallèle. Voilà, donc pour la suite, on peut retenir que si on veut donner une portée finie à la gravitation, il faut fabriquer une équation de Poisson modifiée ou quelque chose qui ressemble à une équation de Poisson modifiée, c'est-à-dire rajouter ce terme. Et ça te donne une portée finie à la gravitation. Alors, donc pour mieux comprendre si c'est possible ou pas, il faut que je vous parle un peu des potentiels gravitationnels et des forces gravitationnelles, en commençant à nouveau par Newton. Donc dans la théorie de Newton, la force, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Donc un vecteur, c'est, si on ne sait pas ce que c'est, on peut penser que c'est une sorte de flèche qui pointe dans une certaine direction, qui a une certaine longueur. Et c'est comme ça qu'est représentée la force gravitationnelle dans la théorie de Newton. Donc un vecteur, si on pense à une flèche comme ça, on s'aperçoit qu'il faut trois nombres pour définir un vecteur, évidemment. Il faut, par exemple, si on utilise un certain système de coordonnées qu'on peut prendre les murs de cette pièce, il faut trois nombres pour définir un vecteur, d'accord ? Pour savoir dans quelle direction il pointe et quelle est sa longueur. Et si on a un vecteur en chaque point de l'espace, comme par exemple autour d'un corps massif, on parle de champ de vecteur. Donc par exemple sur la Terre, si on représente la Terre et le champ gravitationnel dû à la Terre, on peut penser qu'en chaque point de l'espace autour de la Terre, il y a un vecteur qui représente ce champ attractif auquel un mobile qui est dans le champ terrestre va être soumis. Alors, on connaît d'autres champs de vecteurs. Par exemple, si on pense à la météo, on peut représenter la carte des vents. Donc là, c'est un champ de vecteurs à deux dimensions, à la surface de la France. Vous avez en chaque point, vous avez un petit vecteur. Et comme c'est à deux dimensions, il faut deux nombres pour représenter un vecteur. Donc il faut, par exemple, on peut prendre sa longueur et puis sa direction par rapport à quelque chose de référence. Un autre exemple, si on regarde une carte en relief, on peut, par exemple, ça c'est quelque chose qui se trouve en Suisse, et on peut en chaque point de cette carte représenter une petite flèche qui mesure la composante du poids suivant la direction la plus raide. Donc quand vous êtes une petite bille qui vous promenez dans ce paysage, eh bien, vous êtes entraîné en chaque point vers la direction la plus raide par un morceau du poids. Évidemment, si le paysage est plat, vous êtes parfaitement plat, vous vous êtes attiré nulle part, mais le paysage est un peu pentu, vous êtes attiré un petit peu, puis si le paysage est très pentu, vous êtes attiré beaucoup. Donc on peut présenter cela avec un champ de vecteurs, aussi qui aura, si on représente ça sur une carte, ça sera un ensemble de petites flèches. Alors on peut faire en fait quelque chose de plus économe, et au lieu de parler de champ de vecteurs, on peut s'intéresser aux courbes de niveau. Donc là, vous avez le paysage, et j'ai représenté ici la composante dont je parlais tout à l'heure, du poids. Et en fait, ces composantes, on peut les déduire directement si on regarde simplement une carte IGN du coin. Donc là, par exemple, c'est au puits de Sancy. Donc là, il y a des pentes très raides, et donc on peut facilement, en chaque point, tracer la ligne de plus grande pente, et puis mesurer aussi la force qu'on ressent à ce point. D'accord ? Donc ce qu'on voit, à partir de ce petit exemple simple, c'est que finalement, à partir de l'altitude c'est un nombre pour chaque point, on peut reconstituer un champ de vecteurs qui est deux nombres en chaque point. D'accord ? Donc on part d'un nombre, c'est l'altitude sur la carte, et on peut reconstituer un champ de vecteurs qui est constitué par deux nombres. Donc, comme dirait le président Macron, il y a un truc, hein, puisqu'on passe de un nombre à deux nombres. Donc ça, c'est Gérard Majax, c'est aussi peut-être, ça parle seulement à des gens d'un certain âge, mais un magicien. Donc voilà, comment on fait pour passer d'un nombre à deux nombres ? Et le truc, c'est une opération mathématique qui s'appelle prendre le gradient, c'est-à-dire que vous avez un profil d'altitude, et en prenant un gradient, vous pouvez fabriquer un champ de vecteurs. Alors ça ne marche pas toujours. Par exemple, si vous avez un champ de vecteurs qui a cette forme-là, on voit que ça peut marcher, parce que là, on peut penser que si on pense à un relief, qu'on est au sommet d'un volcan, puis on peut aller dans différentes directions, on est attiré dans la ligne de plus grande pente, dans différentes directions. Par contre, si on prend un vecteur qui tourne comme ça, donc là, on a envie de dire qu'on descend, on descend encore, et on se retrouve au point de départ. Donc ça fait penser à ce dessin d'Escher, où il y a un personnage qui descend tout le temps ou un autre qui monte tout le temps. Donc ça ne marche pas dans la vraie vie. D'accord ? Donc il y a des champs de vecteurs qu'on ne peut pas retrouver comme ça en prenant un gradient, puis d'autres qu'on peut. Et pour la gravitation, on peut. Donc la gravitation newtonienne, eh bien, c'est un vecteur qui s'obtient comme le gradient d'un potentiel. Donc c'est ce potentiel dont je parlais au départ. Et ce potentiel, c'est un seul nombre en chaque point de l'espace. Donc à nouveau, c'est comme soit une altitude, soit des températures. Là, vous avez une carte de température, donc c'est un seul nombre dans l'espace. Et à partir de ce seul nombre, vous prenez le gradient et vous trouvez un vecteur. Et ce potentiel qui représente ce nombre, c'est, il obéit lui-même à l'équation de Poisson de tout à l'heure. Voilà. Alors, on peut faire pareil dans le domaine de l'électrostatique. Donc, de même que pour la théorie de Newton, vous avez un seul potentiel qui permet de trouver cette loi en 1 sur d² et la direction du vecteur. si vous connaissez le potentiel partout. Pour l'électrostatique, c'est pareil. Il y a un seul potentiel. Alors, si on continue à étudier un peu les lois de Newton, ben, on sait qu'on peut, avec les lois de Newton, on peut avec un certain succès, hein, décrire les mouvements des corps du système solaire. Donc, si on oublie un peu les problèmes soulevés par Le Verrier, par exemple, et Einstein, pour beaucoup de choses, la théorie de Newton suffit complètement, et on peut se borner à cette théorie et utiliser à un seul potentiel, même avec des corps en mouvement. D'accord, puisque les planètes elles bougent, etc. Donc tout ça, ça marche très bien avec la théorie de Newton, un seul potentiel, et point final si on vit avant Le Verrier. Pour la force électromagnétique, est-ce que c'est pareil ? Eh bien non. Parce que pour la force électromagnétique, si on prend l'analogue de la Terre, du Soleil et de la Lune, et qu'on les remplace par des charges, on sait que les charges en mouvement, elles créent des champs magnétiques, et sont elles-mêmes sensibles aux champs magnétiques. Et donc on voit que le seul champ électrique et le potentiel électrostatique, ça ne suffit pas. Il faut rajouter en fait, d'autres potentiels pour expliquer la présence de ces autres forces. Donc la bonne façon de faire, la façon moderne, c'est la théorie de Maxwell, de l'électromagnétisme, qui nous dit qu'on peut tout formuler à l'aide de quatre potentiels, donc qui se regroupent dans ce qu'on appelle un quadrivecteur, mais peu importe, on peut penser que c'est quatre nombres en chaque point de l'espace, qui permettent de calculer en chaque point le champ électrique et le champ magnétique. Donc la théorie de Maxwell, c'est celle qui décrit l'électromagnétisme moderne, mais aussi les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, on sait qu'elles ont ce qu'on appelle des polarisations. Donc elles se décomposent en deux polarisations indépendantes qu'on peut mettre en évidence en faisant une expérience. Donc moi, je suis un théoricien, j'avais envie de faire une expérience, je ne sais pas si ça va marcher, mais là, voilà, j'ai apporté des lunettes polarisantes là, qu'on trouve dans les cinémas, et donc si ça marche bien, ça va pas marcher, parce que comme je suis un théoricien, je ne sais pas faire d'expérience, mais donc là, voilà, alors là, ça ne marche pas, mais je crois que si... Donc ça ne marche pas terrible, mais ça marchait mieux tout à l'heure, voilà, enfin bon. Vous voyez, l'idée, c'est que si je tourne les lunettes l'une par rapport à l'autre, je vais en principe éteindre complètement la lumière sur une des deux lunettes. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, c'était une tentative. Alors en fait, ça me rappelle, un jour j'étais à une conférence donnée par Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, qui était le fils d'un grand physicien, Yves Rocard, et qui a commencé par faire de la physique, et il disait qu'il était catastrophique pour faire toute manip de physique, donc moi je suis un peu pareil, vous voyez. Mais là, en tout cas, ce que je voulais dire surtout, c'est que, peut-être certains d'entre vous l'ont étudié également, on sait très bien que la lumière a deux polarisations indépendantes, et qu'on peut mettre en évidence dans les ondes électromagnétiques en particulier. Alors, donc là, à nouveau, il y a une petite énigme, parce qu'on est parti de quatre potentiels en chaque point, et on a dit qu'il y avait deux polarisations en chaque point. Donc, il y a deux solutions. Soit on a perdu deux polarisations, quelque part, donc là, c'est deux dames, par exemple, ou bien il y a encore un truc, d'accord ? Donc, qui explique comment on passe de quatre polarisations, de quatre nombres à deux nombres. Et la bonne réponse, c'est que Gérard Majax a encore sévi, il y a bien un truc. Le truc, c'est que les quatre potentiels, en fait, sont redondants. C'est-à-dire qu'ils peuvent décrire, même en étant différents, la même situation physique, le même champ électromagnétique. Donc une façon de le dire, c'est que si vous prenez un ensemble de quatre potentiels en un point de l'espace, vous pouvez faire ce qu'on appelle une transformation de jauge, donc transformer les valeurs de ces potentiels, et cette transformation, elle laisse inchangé le champ électromagnétique. Donc une analogie avec ça, qui est pas très la meilleure analogie, mais on peut y penser néanmoins, c'est ce qui se passe si on repense à notre carte IGN de tout à l'heure. Si on néglige la variation du poids avec l'altitude, ben on voit qu'on peut changer toutes les altitudes de la carte globalement, c'est-à-dire on décale l'origine des altitudes, par exemple, on change les valeurs numériques des altitudes, on imagine que le Mont Blanc se trouve à moins 4000 mètres, par exemple, et puis on change toutes les altitudes de la même façon, et ça ne change pas les petites flèches qu'on peut dessiner sur la carte à partir des lignes de niveau. Donc en électromagnétisme, il se passe quelque chose d'un peu analogue, sauf qu'on peut faire, et c'est ça qui est assez particulier, on peut faire cette transformation différemment en chaque point de l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle une transformation de jauge, et c'est elle qui explique qu'on passe de 4 nombres à 2 nombres, en quelque sorte. Ça, on peut le retenir par la suite. Donc on a en électromagnétisme quatre potentiels qui sont redondants et qui se transforment sous une transformation de jauge qui laisse à la fin seulement deux polarisations physiques. Alors qu'est-ce qui se passe en gravité maintenant ? Donc en gravité, on sait que la théorie de Newton, on peut l'oublier, et que la bonne théorie, c'est celle d'Einstein. Et dans la théorie d'Einstein, en fait, il n'y a plus un seul potentiel, mais il y a 10 potentiels. Alors on n'appelle plus ça trop des potentiels, mais Einstein lui-même, il appelait ça des potentiels. Dans l'article, par exemple, que j'ai montré tout à l'heure. Donc ces 10 potentiels, on peut les ranger. Alors à nouveau, c'est des objets qui sont pas seulement des tableaux de 10 nombres, mais qui sont un peu plus compliqués, qui sont ce qu'on appelle des tenseurs, mais peu importe pour nous, on peut les ranger en mettant des petites étiquettes, 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Donc là, si je ne me suis pas trompé, ça doit faire 10. Ces 10 potentiels, ils permettent de décrire avec succès, finalement, tout ce qu'on peut décrire avec la théorie d'Einstein, donc en particulier la précession du périhélie de Mercure, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien la déviation de la lumière par un corps massif. Et donc, vous savez peut-être que cette déviation de la lumière, elle a été observée par... l'histoire retient en tout cas que Eddington, en 1919, a été observé une éclipse totale de Soleil, lors de laquelle il a pu mesurer la différence entre la position apparente d'une étoile qui rasait, qui était près du bord du Soleil. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça pendant une éclipse, parce que l'effet est plus important si on se trouve près du bord du Soleil. Donc, il a mesuré la différence entre la position apparente d'une étoile et sa position réelle. Et à partir de cette différence, il a pu confirmer la théorie d'Einstein qui prédisait une certaine valeur pour cette déviation de la lumière. Si quand on regarde les données, c'est peut-être un peu... c'est ce que retient l'histoire, en tout cas. Voilà. Donc, il y a ces 10 potentiels qui décrivent bien la théorie... qui décrivent tout ce qu'on peut faire avec la théorie d'Einstein. Et ces 10 potentiels, on peut les penser comme décrivant une perturbation de ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps. Donc là, je ne vais pas du tout l'expliquer en détail, mais ce qui importe pour nous, c'est que ces 10 potentiels obéissent à des équations qui sont aussi en nombre de 10. Les mu nu ici, prennent ces valeurs 0, 0, etc. Et c'est ce qu'on appelle les équations d'Einstein, que j'ai déjà évoquées précédemment. Alors, les équations d'Einstein sont des équations en fait très compliquées, qui sont non linéaires, c'est-à-dire qu'on peut les, si on les exprime avec ces potentiels h mu nu, il y a non seulement des termes qui sont linéaires dans les h mu nu, mais il y a aussi des termes qui sont d'ordre h au carré, etc., h au cube, etc. On peut voir ça comme une série infinie de termes de puissance de plus en plus élevée. Et on peut néanmoins, comme on fait parfois en physique, dans certaines situations où h est petit, on peut linéariser ces équations, c'est-à-dire jeter tous les termes qui sont des puissances plus grandes que 2, et ainsi retrouver en particulier l'équation de Poisson pour un de ces potentiels. Mais par contre, on ne trouve pas l'équation de Poisson modifiée. On trouve l'équation de Poisson, mais pas l'équation de Poisson modifiée. Et ça, c'est associé au fait que la gravitation a une portée infinie dans la théorie d'Einstein également. Alors, ces équations d'Einstein, elles permettent aussi de décrire les ondes gravitationnelles, dont j'ai parlé au début. Et les ondes gravitationnelles, comme les photons, elles ont deux polarisations seulement. Elles ont été prédites par Einstein en 1916, donc ça, c'est l'article de 1916 où il fait cette prédiction. Et là, vous voyez, en fait, ici, si je veux utiliser les mêmes notations que dans cet exposé, il faudrait appeler gamma, là. Gamma, ça serait notre petite h, et puis la métrique g, c'est la métrique de l'espace-temps, et puis là, on fait un développement en fait, au voisinage d'un espace-temps plat. Peu importe pour la suite, mais en tout cas, c'est ce qui apparaît dans cet article-là. Voilà, alors donc, si on revient à notre histoire de potentiel, donc on a ces 10 potentiels au départ, et on a deux polarisations physiques, donc à nouveau, Gérard Majax intervient, et nous dit qu'il y a une symétrie de jauge qui permet d'expliquer pourquoi on passe de 10 à 2. Il y a un parallèle exact entre la théorie d'Einstein et la théorie de Maxwell de ce point de vue, c'est-à-dire que dans la théorie d'Einstein, le champ gravitationnel est décrit par 10 potentiels qui sont redondants et qui se transforment sous une transformation de jauge qui ne change pas la physique, mais laisse à la fin seulement deux polarisations physiques, et uniquement deux, et ces potentiels obéissent aux équations d'Einstein. Alors maintenant, qu'en est-il des quantums, des quantas associés à ces théories ? Donc dans la théorie de Maxwell, le quantum associé aux ondes électromagnétiques, c'est le photon. Et dans la théorie d'Einstein, ça serait donc le graviton. Et comme pour le photon comme pour le graviton, En fait, la symétrie de jauge dont j'ai parlé, donc celle qui permet de passer de 4 à 2 ou de 10 à 2, en fait, elle interdit que le photon ou le graviton ait une masse non nulle. C'est-à-dire qu'elle interdit de fabriquer l'analogue de cette équation de Poisson modifiée, parce qu'elle interdit, si on pense à la gravitation, l'analogue de cette équation, ça serait un terme ici qui serait linéaire en H menu, sans aucune dérivée agissant sur ce terme. Et ce terme-là, il est interdit par la symétrie de jauge. Et c'est pour ça que le graviton et le photon ont une masse strictement nulle dans la théorie de Maxwell ou dans celle d'Einstein. Donc ce n'est pas une masse approximativement nulle, c'est une masse exactement nulle. Parce que si on ne veut pas une masse nulle, on doit briser cette symétrie de jauge qui est au fondement de la théorie. Donc on peut résumer tout ça dans ces petits diagrammes-là. C'est que en électromagnétisme comme en gravitation, donc il y a des quantas, donc le photon d'un côté, le graviton de l'autre côté. Tous les deux, les deux interactions ont une portée infinie. Les deux quantas ont des masses nulles et deux polarisations, et tout ça, c'est lié à l'existence de cette symétrie de jauge dans les deux théories, qui sont différentes, mais qui ont le même effet, en tout cas, d'interdire une masse non nulle. Donc maintenant, passons à la dernière partie de cet exposé, où je vais vous parler à quoi pourrait ressembler une gravitation massive avec une masse non nulle. Alors, donc la première étape de cette idée, c'est Einstein, 1917, la constante cosmologique, j'en ai déjà parlé. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne permet pas de donner une masse au graviton. Donc une deuxième étape, c'est dû à ces gens-là, donc Kaluza et Klein, donc qui peu de temps après la formulation de la relativité générale, ont étudié ce qui se passerait s'il existait une dimension d'espace supplémentaire, une cinquième dimension. Trois dimensions spatiales et le temps, ça fait quatre dimensions de l'espace-temps. Et il rajoute une dimension d'espace supplémentaire. Alors, c'était bien avant la théorie des cordes, etc. Hein, donc, il n'y avait aucun rapport avec la théorie des cordes. Mais ces travaux de Kaluza et de Klein sont restés en fait importants, notamment pour la théorie des cordes. Et ils permettent d'expliquer comment, éventuellement, des dimensions d'espace supplémentaires, donc aux trois dimensions d'espace qu'on connaît, pourraient rester invisibles pour le moment. Donc pour ça, il suffit que ces dimensions, si je puis dire, si elles soient compactes, c'est-à-dire recroquevillées sur elles-mêmes. Donc là, c'est l'exemple de ce qui se passerait si on vivait à la surface d'un cylindre, donc comme un fil électrique, comme celui-là. La surface du cylindre, c'est une surface à deux dimensions. Et simplement, il y a une dimension, celle qui est dans l'axe du cylindre, qui est très grande, et l'autre dimension qui est recourbée sur elle-même. D'accord ? Donc, il faudrait imaginer, si on veut adapter ça à l'espace-temps, qu'on aurait 3 plus 1 pour le temps, grande dimension, et peut-être une cinquième dimension, voire plus, qui serait compacte et recroquevillée sur elle-même, avec un rayon de courbure, ici grand R. Et alors, on peut ensuite étudier ce qui se passe si je mets un champ dans cet espace-là, un champ phi, et montrer que, et c'est ce qu'on montrait, ce qu'on appelle le mécanisme de Kaluza-Klein, c'est que si on met un champ dans un tel espace-temps, donc un champ qui vit dans un espace à 5 dimensions, en fait, on peut voir ce champ comme une collection infinie de champs massifs, chacun vivant dans un espace à 3 plus 1 dimension. C'est une somme infinie, on appelle ça une tour de mode de Kaluza-Klein. Et donc, vous voyez, il y a un champ de masse nulle, puis il y a un champ qui a une masse inversement proportionnelle au rayon de la dimension supplémentaire, deux fois, trois fois, etc. Et donc, en particulier, si on fait des expériences à des énergies très inférieures à la masse M1, là, qui est la masse de la première excitation de masse non nulle, eh bien, on ne voit que le mode de masse nulle. Et donc on a l'impression, et ce mode de masse nulle, il vit dans un espace à 3 plus une dimension. Donc on a l'impression on ne voit pas les dimensions supplémentaires, on ne voit pas l'effet de ces dimensions supplémentaires. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Kaluza-Klein. Alors ce mécanisme de Kaluza-Klein est toujours utilisé en théorie des supercordes, par exemple. Mais si on s'intéresse à la simple idée que le graviton puisse avoir une masse, ça ne marche pas complètement de façon satisfaisante, parce que ça donne une infinité de gravitons massifs, au lieu d'en avoir un seul. Et puis ça donne aussi, dans le cas original de Kaluza-Klein, d'autres champs, des champs vecteurs et des champs scalaires qui sont couplés de façon compliquée. Donc, ce n'est pas ainsi qu'on peut donner une masse à un seul graviton. Pour ça, Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut trouver comment modifier les équations d'Einstein linéarisées, c'est-à-dire fabriquer cette équation analogue à l'équation de Poisson modifiée. Alors, cette façon de faire a été trouvée par Fierce et Paoli, deux physiciens, le plus célèbre étant Paoli, évidemment, en 1939, qui trouvent l'unique façon de procéder pour modifier les équations d'Einstein linéarisées et donner une masse au graviton tout en ayant partout des énergies positives, en évitant ce qu'on appelle des modes fantomales ou fantomatiques, je ne sais pas trop bien comment on dit en français, c'est-à-dire des modes d'énergie négative. Donc ce qu'ont fait Fierce et Paoli, finalement, ils ont trouvé comment, remplacer cette équation de Poisson modifiée, donc là qui s'applique à un seul potentiel, en plus qui est une équation qui n'est pas, qui n'est pas une équation d'onde, ils ont trouvé comment remplacer cette équation et comment en particulier modifier l'équation d'Einstein, linéarisée, et trouver ce terme linéaire ici dans le potentiel. Donc il se trouve qu'il n'y a qu'une seule solution qui est celle-là. Donc vous voyez, on doit prendre une certaine combinaison particulière des potentiels, et on doit prendre ici un signe moins, un coefficient 1 là. Là, c'est la métrique de l'espace-temps voisinage duquel on perturbe, et là, c'est la petite perturbation. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est ce qu'ont trouvé Fierce et Paoli. L'histoire aurait pu s'arrêter là, peut-être, mais non, puisque en particulier la théorie de Fierce et Paoli conduit à des prédictions qui sont en désaccord avec les observations et gravement en désaccord. En particulier la déviation de la lumière, telle que observée par Eddington, diffère environ de 25% des prédictions de la relativité générale dans cette théorie, et de 25% c'est beaucoup trop pour être aujourd'hui admissible. Et cette différence entre la théorie de Mastul et la théorie massive, en fait, elle est due à la perte de la symétrie de jauge. Donc dans la théorie massive, il n'y a plus de symétrie de jauge, et ça veut dire que le graviton possède en fait plus que deux polarisations, il en possède cinq. Et sur ces cinq polarisations, on peut penser que chacune est responsable d'une force. C'est donc la théorie d'Einstein, il y a deux polarisations et ça explique la force gravitationnelle usuelle. Dans la théorie de Fierce et Paoli, vous en avez trois polarisations de plus. Et sur ces trois polarisations de plus, il y en a une de ces trois polarisations qui exerce une force supplémentaire qui va changer la déviation de la lumière. Et en plus, et là ça peut paraître très surprenant, mais cette différence de 25%, elle persiste quelle que soit la petitesse de la masse du graviton. Donc si vous prenez un graviton de masse non nulle, mais très petite, eh bien ça diffère, si vous calculez la déviation de la lumière, elle va être différente de la déviation de la lumière calculée dans la relativité générale, toujours de 25%, même si vous faites tendre la masse du graviton vers zéro. Donc il y a ce qu'on appelle une discontinuité, parce que vous ne pouvez pas prendre la théorie massive et faire tendre la masse du graviton vers zéro et retrouver la relativité générale. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Van Damme, Wellman, Sakharov, donc, qui ont exprimé les choses ainsi dans les années 70, ou VD, VZ. Alors après ces travaux de Van Damme, Wellman, Sakharov, donc Wellman a eu le prix Nobel, pas du tout pour ça, mais c'est un physicien aussi éminent. Un autre physicien éminent, Arkady Weinstein, il y a un peu plus de 50 ans, conjecture ou propose une solution au problème de Van Damme et Sakharov pour essayer d'avoir une théorie qui redonne la relativité générale et avec un graviton massif. Et cette idée de Weinstein, elle repose sur une extension non linéaire de la théorie de Fierce et Paoli. Donc vous rappelez que la théorie de Fierce et Paoli, c'est une théorie linéaire, donc qui ne contient pas de puissance de H au-delà de la puissance 1. Eh bien, Weinstein, lui, fabrique une extension non linéaire de la théorie de Fierce et Paoli et conjecture, sans le prouver vraiment, que ça peut marcher, qu'on peut retrouver ainsi la relativité générale en faisant tendre la masse vers zéro et donc s'affranchir de cette discontinuité de Van Damme, Wellman, Sakharov. Alors, dans cette théorie de type Weinstein, on a besoin en fait de deux métriques dans l'espace-temps, on appelle ça des théories bimétriques, mais en tout cas, c'est ainsi que l'a formulé Weinstein. Donc, suite aux travaux de Weinstein, Boulouer et Désert, deux autres physiciens, Désert, un autre physicien très, très éminent qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, prouvent, alors il y a des guillemets, vous allez voir pourquoi, mais pensent prouver en tout cas que dans cette théorie non linéaire à la Weinstein, il n'y a pas cinq polarisations, comme dans la théorie linéaire de Fierce et Paoli, mais six. Et cette sixième polarisation, en plus, a le mauvais goût d'avoir des énergies négatives. Donc ça, ça suffit pour tuer la théorie. On n'aime pas du tout avoir des énergies négatives en général en physique. Et c'est ce qu'ont pensé prouver Boulver et Désert en 72. Et la situation est restée complètement inchangée jusqu'au modèle DGP, dont j'ai parlé au début, qui a permis, en étudiant sa cosmologie, de donner une indication, puisque dans le modèle DGP, il y a quelques éléments qui ressemblent à la gravité massive, et on peut donc s'intéresser à ce problème de la discontinuité de Van Damme et Sakharov et aux idées de Weinstein et de Boulver-Désert. Donc, l'étude de ces solutions ont indiqué que peut-être, finalement, le mécanisme de Weinstein marchait correctement. Et en fait, on a pu le montrer avec mes collaborateurs, Evgeny Balichev, qui d'ailleurs est aussi chercheur associé à l'IAP, et puis mon thésard à l'époque, Riad Ziour, en effet, que ça marchait bien comme Weinstein, c'est-à-dire que la théorie, on pouvait, dans certaines théories non linéaires, retrouver la relativité générale en faisant tendre la masse du graviton vers zéro, et donc s'affranchir de cette discontinuité de Van Damme, Wellman, Sakharov. Alors ensuite, il y a une autre étape qui a été franchie par ces gens-là, Claudia de Rame, Grégory Gabadadze et Andrew Tollet, qui ont réussi à montrer que le théorème entre guillemets de Boulver et Désert était faux. C'est-à-dire qu'il existait des théories non linéaires qui propageaient dans lesquelles on n'avait pas 6 polarisations, mais 5. Et ils ont pu construire ces théories, ce qu'on appelle maintenant les théories DRGT, des initiales des auteurs. Voilà. Et depuis, il y a de nombreux travaux sur cette théorie qui visent à mieux la comprendre et à aussi étudier son application à la cosmologie. Alors, on peut aussi mentionner ici que les observations de Ligo-Virgo permettent aussi de contraindre la masse du graviton d'une façon, en utilisant des théories différentes de celles dont j'ai parlé là, mais en tout cas, si vous regardez les papiers suivant la première détection des ondes gravitationnelles, il y a des contraintes données sur la masse du graviton. Donc la masse, évidemment, doit être très faible, mais on peut mettre de telles contraintes. Donc aujourd'hui, la situation est que, si on regarde la théorie DRGT dont j'ai parlé, qui est l'aboutissement de tous ces travaux, il n'est pas clair qu'elle vraiment passe tous les tests, et il y a des questions qui restent sans réponse, en particulier sur les trous noirs, mais ça reste un modèle jouet intéressant pour étudier les modifications à grande distance de la gravitation. Alors c'est un sujet, les modifications à grande distance de la gravitation, qui reste d'actualité. Donc là, j'ai extrait d'une base de données qui s'appelle Web of Science, qu'on utilise beaucoup dans notre domaine. J'ai extrait le nombre d'articles publiés chaque année qui traitent à la fois de gravité modifiée et de cosmologie. Donc le temps, ça remonte le temps. Donc il y a 20 ans, on était par là. Puis on voit qu'il y a une croissance continue du nombre de ces papiers. Et donc c'est un sujet qui continue à être très, très étudié, de plus en plus étudié. Et il y a deux raisons à ça, je pense. D'abord parce que c'est cette idée de modifier la gravité, comme je l'ai dit au début, ça peut conduire à des alternatives intéressantes à l'existence d'énergie sombre ou de matière sombre. Et puis la deuxième raison, je pense, c'est qu'on est entré depuis 20-25 ans dans ce qu'on appelle parfois l'ère de la cosmologie de précision, c'est-à-dire un moment de l'histoire de cette discipline où on peut avoir des observations qui permettent de contraindre avec une assez grande précision, quelques pourcents, pas plus petits, toutes les quantités mesurées. Et aussi, on a maintenant les observations des ondes gravitationnelles directes. Et tout ça, ça permet de tester la gravitation dans des régimes, d'une façon qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et pour faire ce genre de test, on aime bien avoir des alternatives à la théorie de la relativité générale. Donc même si on ne croit pas à ces alternatives, avoir sous la main ces alternatives, ça permet de faire ces tests. Et ça, c'est important également pour cette raison-là. Voilà, et donc je vous remercie de votre attention.
Non. Si. Je disais merci beaucoup Cédric pour cette conférence. Alors, c'est pas facile, merci pour tous tes efforts pour essayer de nous faire mieux comprendre ces notions complexes.
C'est un sujet un peu abstrait.
Oui, qui est parfois un peu abstrait, donc merci pour tous ces efforts. Il y a pas mal de commentaires sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Moi, notamment, il y en avait un qui disait « Ah, l'astronomie, il n'y a pas beaucoup de logique et tout ». Moi, au contraire, j'ai bien aimé l'analogie que tu as faite sur le verrier, sur son beau résultat sur Uranus qui permet de détecter Neptune, et puis son échec sur Mercure qui ne permet pas de détecter Vulcain ni la relativité générale. Mais je trouve que c'est très, 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 très illustratif de ce que tu nous as présenté par la suite. Et puis, c'est ça la science, quoi. Parfois, on a des réussites, des grandes réussites à la détection de Neptune. Et puis, Vulcain, c'est un échec, mais c'est comme ça que la connaissance progresse. Donc, je vais retranscrire quelques questions, quelques commentaires sur Internet, là, comme j'en ai déjà retranscrit un. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle ? Personne n'ose. On a l'amphi plein, mais personne n'ose poser une première question. Alors, pendant que les gens cherchent, je vais en prendre une sur Internet. Alors, tout le temps, cette question du graviton, quoi, qui pourrait être détectable. Alors, c'est pas une question. Alors, peut-être une question un peu, peut-être un petit peu philosophique, mais si on admet qu'il est. En gros, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit le graviton n'est pas détectable, mais il existe ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans ?
Oui, j'ai mis des guillemets. Évidemment, on n'a jamais détecté un graviton unique. Il y a des articles, des gens qui ont étudié cette question, et on peut montrer que c'est très difficile, voire impossible, en effet, de faire ça. Cependant, il y a des cas où ça pourrait être plus facile. Par exemple, dans ces modèles dont j'ai parlé, où il y a des dimensions supplémentaires aux trois qu'on connaît usuellement, qui viennent de la théorie des cordes, dans certains modèles de ce type, les gravitons sont plus nombreux en quelque sorte. Enfin, il y a ces tours de graviton Kaluza-Klein qui du coup sont plus visibles. Donc ça pourrait être une voie de détection. Évidemment, ça serait d'une pierre deux coups parce qu'à la fois on détecterait des gravitons, mais aussi on mettrait en évidence l'existence de dimensions supplémentaires. Après, peu importe pour mon exposé que le graviton existe ou pas. Donc là, tout ce que j'ai raconté quasiment, c'est de la physique classique, non quantique. Donc le graviton, c'est le quantum de gravitation. Et donc là, c'est ce que j'ai. Le terme graviton, je l'ai utilisé pour ne pas dire à chaque fois peut-être onde gravitationnelle. Ou vous voyez, c'est pour ce que j'ai dit, ça change pas grand-chose. C'est juste une façon, un proxy, comme on dit en anglais, pour dire onde gravitationnelle ou théorie linéarisée d'Einstein. Et force de portée finie ou infinie.
Et il y a une autre, tu as fait beaucoup l'analogie en comparant donc le photon et le graviton. Alors, il y a une question là que tu as un petit peu répondu, mais peut-être tu peux en dire un petit peu plus. Si le graviton est une particule de masse nulle, il ressemble beaucoup en caractéristique au photon. Est-il aussi doté d'une double personnalité, enfin d'une dualité onde-particule ? Tu as un petit peu parlé.
Il ressemble au photon dans le sens où il a une masse nulle, mais il est très différent du photon parce qu'il a un spin 2, alors que le photon a un spin 1. Ça fait, par exemple, que les deux polarisations dont je parlais pour les ondes gravitationnelles, elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que les deux polarisations des ondes électromagnétiques. Mais après, oui, comme le photon, comme toutes les particules, il y a cette dualité onde-corpuscule. Tous les champs, plutôt, leur quantum a cette dualité onde-corpuscule de la même façon. En tout cas, si on croit que la gravitation doit être quantifiée. Après, vous savez que ça, c'est évidemment le consensus, c'est que on doit trouver une version quantique de la gravitation, mais il y a quelques physiciens très éminents qui essaient de faire autrement. Donc c'est pas la voie consensuellement suivie, mais c'est une voie qui est suivie par des gens. Par exemple, vous vous souvenez, il y a quelques années, le prix Nobel Toft avait des idées un peu dans cette direction-là. Enfin voilà, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, mais en tout cas le consensus c'est qu'on doit bien quantifier la gravitation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le graviton, donc le quanta de gravitation, a aussi ces mêmes propriétés de dualité onde-corpuscule qu'ont les autres particules ou les autres champs, les autres quantums de champs des interactions fondamentales.
Et toujours dans cette analogie graviton-photon, donc il y a des physiciens qui, il y a des physiciennes qui se posent la question de la masse du graviton. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question de la masse du photon ?
Oui, bien sûr. Donc on peut également essayer de mettre une masse au photon. Donc et il y a des modèles. En gros, de toute façon, toutes les choses un peu exotiques auxquelles on peut penser ont été explorées ou sont explorées. Et donc, si vous regardez, il y a une Bible pour les physiciens des particules qui est publiée par le CERN, dans laquelle vous avez toutes les propriétés particules et aussi toutes les contraintes actualisées qu'on peut mettre sur ces propriétés. Donc, il y a des contraintes sur la masse du photon, sur la masse du graviton, sur toutes les déviations qu'on peut écrire auxquels les gens ont pensé, en tout cas à partir du modèle standard de la physique fondamentale.
Alors je retente ma chance dans notre amphithéâtre qui est toujours plein, ça fait plaisir, mais est-ce qu'il y a des gens? Oui, je vois une main qui se lève, donc pour un commentaire ou une question.
Est-ce que découvrir, avoir une avancée majeure sur le graviton, ça nous aiderait à comprendre ce qui se passe au centre des trous noirs ou au Big Bang, aux premiers instants du Big Bang?
Pas spécifiquement sur le graviton, mais par contre, évidemment, on pense que pour comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, donc, en tout cas, quand on rentre dans un trou noir, on franchit ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. On peut très bien franchir l'horizon du trou noir sans qu'il y ait grand-chose qui se passe. Mais ensuite, on finit par tomber, en général, sur une singularité d'espace-temps. C'est un endroit où la géométrie de l'espace-temps est plus bien définie. Et cette singularité de l'espace-temps, elle ressemble aussi aux singularités, à la singularité qui se présente dans les modèles de Big Bang, si on extrapole la relativité générale jusqu'au moment où on atteint cette singularité. Donc le consensus, c'est de dire qu'une fois qu'on aura compris la gravitation quantique, donc comment quantifier la gravitation, on pourra peut-être comprendre ces singularités et donc voilà ce qui se passe du coup à l'intérieur d'un trou noir ou bien au moment du Big Bang. Et donc c'est plutôt là, pour faire ça, il faudrait disposer d'une théorie quantique de la gravitation qui pourrait nous dire aussi des choses éventuellement sur le graviton, mais ce n'est pas spécifiquement le graviton lui-même pris isolément qui permet de faire ça. C'est plutôt, en tout cas, le consensus est plutôt de dire qu'il faut trouver une bonne théorie quantique de la gravitation. Donc là, il y a des pistes qui sont suivies, la théorie des cordes, la théorie de la gravité quantique en boucle, des choses comme ça. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment faire tout ça de façon complètement consistante. Cohérente.
Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires, de mains qui se lèvent? Oui.
Moi, ce serait pour reprendre l'analogie avec les monstres mangeurs de peinture, du coup. Qu'est-ce qui serait donc l'équivalent de ces monstres dans la gravité?
Alors oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas tellement, d'équivalent au sens où il n'y a pas de monstres. Enfin, en tout cas. On ne peut pas vraiment fabriquer des monstres mangeurs de gravité, mais c'est simplement une analogie ici un peu formelle entre donc, les équations qui décrivent ces monstres et ce terme de modification de l'équation d'équation de Poisson. Donc l'analogie, c'est quand même que pour avoir cette décroissance de type Yukawa, il faut avoir quelque chose. Et c'est ce que fait la constante cosmologique aussi, mais avoir quelque chose dans un volume qui permet de changer la gravité de façon un peu volumique. Et donc là, j'ai eu cette idée de vous parler de petits monstres, de mon mangeur de peinture, pour l'expliquer, mais ça s'arrête, je pense, là, cette analogie. Là, si on peut la pousser tellement plus loin.
Il y a une question sur le web, on va faire quelques dernières questions, qui pose la question détecter le graviton. Est-ce qu'on peut se poser la question, là il donne l'analogie avec le boson de Higgs qui a été détecté à un niveau d'énergie assez élevé. Est-ce qu'on a une idée du niveau d'énergie qu'il faudrait pour détecter le graviton?
C'est très différent parce que là le problème de la détection du graviton, c'est un problème de couplage. C'est-à-dire que la gravité, c'est une force qui domine l'univers à très grande échelle. Et en fait, la raison, c'est qu'elle est très faible. Et du coup, ça rend très difficile d'isoler. Je vais dans le mauvais sens, mais je voulais montrer la première image. Donc elle domine l'univers à très grande échelle, mais ça rend très difficile, d'isoler un quantum de cette interaction. Et donc c'est pas du tout analogue au Higgs ou à des choses comme ça.
D'accord. J'en vois une qui me fait sourire. Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'analogie, mais je la trouve jolie. Alors, je vais la lire. Peut-être qu'en la lisant, je vais mieux la comprendre. D'autres vont mieux la comprendre. On a un internaute qui nous dit « Chercher la matière noire ne revient pas à relever la température des pneus de voiture sur un parking en pensant qu'ils chauffent d'eux-mêmes sans imaginer qu'ils ont roulé. Bon, » je ne suis pas sûr que j'ai bien compris.
En pensant qu'ils chauffent d'eux-mêmes.
Sans imaginer qu'ils ont roulé. J'ai réfléchi à, mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Ça t'inspire, non?
Non. Pardon. Je suis désolé pour le monsieur. La dame, je ne sais pas.
On va y réfléchir, en tout cas, moi, ça m'a plu quand même, même si je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire dans la salle?
Oui.
Bonsoir. À la fin, vous avez dit que même s'il ne croit pas dans cette théorie, il est utile.
Oui.
Est-ce que vous, vous croyez dans votre théorie? J'imagine oui. Et dans ce cas, comment a changé le niveau de confiance dans cette théorie tout au long de votre carrière?
Comment, pardon? A changé.
Comment a changé le niveau de confiance?
J'aime pas trop employer le terme de croire en fait en science finalement. Je suis assez agnostique de ce point de vue. C'est-à-dire que je ne sais pas si je crois, ou ne crois pas d'ailleurs. C'est juste que je pense que c'est intéressant pour la science d'explorer cette théorie. Donc. Comment a changé? Donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est intéressant, même si finalement il s'avère que c'est pas du tout la réalité. Donc je pense que c'est une démarche qu'on peut faire en science très souvent. C'est-à-dire on étudie quelque chose qui n'est pas forcément la réalité, ou dont on sait que c'est pas forcément la réalité, mais parce que ça peut nous apporter quelque chose dans la compréhension de la réalité elle-même, une partie qui est plus mieux comprise. Et ensuite la façon dont ce sujet est perçu, un peu évoqué par cette recension des articles dont j'ai parlé, mais aussi si on regarde le sujet de la gravité massive, c'est aussi un sujet qui a eu beaucoup sur lequel il y a eu beaucoup de travaux depuis 20 ans. Et donc cette idée que le graviton pourrait avoir une masse, ou l'idée qu'il faut modifier la gravité, c'est une idée qui a une certaine popularité pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et même si on ne croit pas que c'est le cas, voyez, parce que c'est intéressant, même si on veut tester le modèle standard de la cosmologie, même ou la relativité générale usuelle, un truc naturel, c'est d'essayer de trouver une extension de la relativité générale qui peut être comparée à la relativité générale. Parce que c'est un peu difficile parfois de comparer la relativité générale à rien du tout. Et de fait, il se trouve que c'est très difficile en fait, de modifier la relativité générale. Donc, il y a des théorèmes de rigidité, comme on dit. On voit que si on essaie d'un peu modifier les choses, il y a des tas de choses qui ne marchent pas. Donc peut-être ça nous indique que la bonne théorie, c'est la relativité générale, point final. Et en même temps, on sait aussi que ça ne peut pas tout à fait être le point final, sans doute parce qu'on s'attend à ce qu'elles doivent être, par exemple, quantifiées. Donc la théorie des cordes, c'est une façon de la modifier, mais qui ne dit rien de très intéressant pour la cosmologie, malheureusement. Enfin, il y a cette problématique d'essayer de modifier la relativité générale, à la fois pour mieux comprendre la relativité générale elle-même, et aussi pour d'autres raisons que j'ai mentionnées.
Merci. Alors, je me permets de poser la dernière question, puis en lien aussi avec plusieurs commentaires qui disent d'accord, mais les observations, tout ça, c'est théorique, etc. Et puis j'imagine que tu entends souvent ça quand tu présentes tes travaux, ces sujets d'étude. Et donc, pour finir, est-ce que tu peux dire dans ces questions-là, liées à la masse du graviton, quel type d'observation pourrait venir dans le futur et pourrait permettre de faire de grands progrès pour comprendre ces questions?
Alors, je crois que déjà, le sujet des observations dans les théories de gravité modifiée, c'est pas comme dans d'autres peut-être choses spéculatives où il n'y a aucune observation. Au contraire, une des vertus de ce type d'activité, c'est qu'on peut, contraindre très fortement les modèles, voire tuer des modèles avec les observations actuelles ou bien avec les observations futures. Par exemple, on a détecté, comme vous savez sans doute, il y a quelques années, avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles, une fusion qu'on a comprise comme étant une fusion d'étoiles à neutrons. Donc on l'a détectée par les ondes gravitationnelles d'un côté et par aussi les ondes électromagnétiques de l'autre côté. On a en particulier pu observer que le signal gravitationnel, le signal électromagnétique arrivaient quasiment en même temps sur Terre. Et donc cette simple observation-là a permis de tuer tout un tas d'idées de modification de la gravitation. Donc c'est vraiment un domaine, au contraire d'autres domaines peut-être plus spéculatifs, enfin aussi spéculatifs comme la théorie des cordes, des choses comme ça, où là il y a zéro façon actuellement de contraindre cette théorie. Et bien dans ce domaine-là, au contraire, on a plein de façons de tuer des modèles, et ça je trouve ça c'est une situation assez saine à mon avis pour dans ce genre de situation de physique. Donc il y a des observations. Alors là j'en ai cité une, mais il y en a plein d'autres en fait. Par exemple, en cosmologie, on peut regarder la façon dont la gravité se comporte à grande distance en regardant la distribution de matière dans l'univers, la dynamique des des étoiles ou des galaxies, des choses comme ça. Tout ça, ça permet de contraindre ces théories. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On est vraiment, et c'est aussi pour ça que c'est difficile, trouver une bonne théorie. On est vraiment contraint par les observations aujourd'hui.
D'accord.
Et de plus en plus.
Ok. Ben merci, je vous propose d'arrêter là avant de finir. Donc, l'IAP vous remercie là, tous d'être venus dans notre amphithéâtre, de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Merci également donc, à Audrey, Fred et Jean donc, qui sont à la prise de son, à la prise d'image. Je vous rappelle que donc, nous nous retrouvons le mois prochain, le 7 novembre, pour la conférence de Philippe Thébault donc, sur la formation des planètes. Avant le week-end pour Science en Fête, le 15 octobre, nous aurons des journées portes ouvertes intitulé « Origine et évolution de l'univers » de 11h à 18h ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Le programme complet est en ligne sur Internet. Et puis donc, merci de nouveau Cédric pour ta conférence. Merci, bonsoir.